Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, intriga, me serrer la main, me serrer la main, serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love. Une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Violette a deux enfants proches de la vingtaine et comme beaucoup de mamans, elle s'inquiète vite quand ses bébés ne sont pas près d'elle. Sauf que si Violette a une voire mille raisons supplémentaires de s'inquiéter, c'est que son fils et sa fille sont noirs. Et être noir dans une société qui s'accroche à ses privilèges et nie encore l'existence du racisme, cela peut être dangereux. Alors après la vague de carrés noirs et de soutien sur les réseaux sociaux suite au mouvement Black Lives Matter, qu'en est-il de la réalité ? Dans cet épisode, Violette nous raconte ses deux grossesses, son accouchement avec puis sans péridurale et ses premiers pas dans la maternité. Elle nous parle de l'éducation stricte qu'elle a reçue petite et qui lui a appris à se faire discrète en tant que fille noire en France. Violette nous explique sa vision d'un monde qui ne changera pas, pourquoi il faut mettre à jour les livres d'histoire et comment elle éduque ses enfants en leur parlant de tous les possibles, tout en devant leur expliquer les inégalités auxquelles ils devront faire face. Bonne écoute. Bonjour Violette.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Merci de m'inviter.
Avec plaisir. Alors tu es la maman de deux enfants.
C'est ça.
Quel âge ils ont ?
Alors j'ai un fils qui va avoir 20 ans au mois de novembre. Et j'ai une fille qui a 18 ans.
Est-ce que tu as toujours su que tu voudrais devenir maman ? Est-ce que c'était quelque chose à laquelle tu pensais depuis longtemps ?
Oui. Enfin, je pense que quand je regarde derrière, je me rends compte que oui, j'ai toujours voulu être maman. Je pense que j'ai quand même été conditionnée à vouloir devenir maman.
Ah oui.
Aussi. Et ce que je savais, c'est que je voulais mes enfants assez jeunes.
D'accord.
Ouais, je voulais pas. En fait, quand j'ai rencontré mon futur mari, parce qu'il n'était pas encore mon mari à l'époque, je lui ai dit, genre, avant 30 ans, je veux des enfants. Après, je te promets, on fera pas d'enfants. Genre, j'avais trop mis un ultimatum parce que j'avais autour de moi que des exemples. Tu vois, dans ma famille, les femmes ont fait toutes des enfants assez jeunes.
D'accord.
Et,
Ma mère,
elle m'a eu à 21 ans.
Ok, d'accord.
Ouais, donc t'imagines, en fait. Enfin, à 21 ans, en fait, encore un bébé, ouais. En vrai. Mais elle m'a eu à 21 ans et j'ai un frère qui a 3 ans de moins que moi, tu vois. Donc entre 21 et 24, en fait, elle a eu deux enfants. Et pour moi, c'était genre une évidence qu'il fallait faire tes enfants jeunes. Voilà.
Et ton chéri a été plutôt ok ou ça lui a fait peur ?
Non, ça lui a pas fait peur. Il m'a juste dit, tu trouves un travail, on fait des enfants. Donc c'est ce que j'ai fait.
Et alors, comment s'est passée ta première grossesse ?
Ma première grossesse s'est très bien passée. Passé justement le moment où moi je suis quelqu'un d'assez douillet, tu sais, genre je supporte pas la vue du sang, ces trucs comme ça, alors que je voulais être infirmière quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, quand j'ai su que j'étais enceinte, donc on était très contents, ensuite je me suis un peu mise à psychoter en me disant non, mais je vais jamais pouvoir mettre un être humain au monde, en fait, c'est pas possible, enfin. Je peux pas, physiquement c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et du coup, je t'avoue que j'avais quand même, genre j'appréhendais vachement l'accouchement. Après, j'ai pas eu, enfin honnêtement, franchement, ma grossesse s'est super bien passée, j'ai pas eu de nausée, j'ai pas eu de. Le seul truc un peu traumatisant, entre guillemets, c'était mon médecin. Quand je suis allée le voir à la deuxième visite, je crois, genre il m'a bâché, genre. Tu sais, j'avais pris, genre, je sais pas, enfin, tu vois, moi, je suis de nature assez fine, enfin, ça va, tu vois. Et genre, je devais avoir pris, genre, 3 kilos, tu vois, mais ça va. Ouais. Mais genre, le mec m'a bâché, et mon mari était là, en plus. Genre, ah non, mais c'est n'importe quoi, si vous commencez comme ça, comment vous allez vous retrouver à la fin de la grossesse ? Vous arrêtez le sucre, vous arrêtez les jus d'orange, enfin, genre, Mais ça m'a traumatisée. Et tu sais que d'ailleurs, c'est depuis ce jour-là que je ne bois mon thé sans sucre.
Ah oui.
Tu vois, donc il y a 20 ans, c'est à cause de cet homme que j'ai arrêté de mettre du sucre dans mon thé. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas repris en tant que gynéco pour ma deuxième grossesse parce que j'étais traumatisée. Tu vois, en fait, avec le recul, tu te dis, mais pour qui il se prend, tu vois, genre...
C'était la pression.
Ouais, cette position, je pense que cette position, tu sais, en plus, moi j'avais 24 ans, parce que quand j'ai accouché, j'avais 25. Et comme je te disais tout à l'heure, en fait, à 24 ans, t'es encore un peu sous l'emprise de l'autorité.
Mm-hmm.
Et pour moi, il représentait l'autorité, cet homme. Et en gros, tu sais, j'étais comme une petite fille, genre, d'accord. Et en fait, avec le recul, je me suis dit, mais l'autre, pourquoi il se permet ce genre de choses, en fait ? Mais sinon, c'est le seul truc qui m'a un peu crispée pendant ma grossesse. Mais après, franchement, c'était easy, quoi. J'ai pas été malade, tout s'est bien passé. Non, franchement, rien à dire. C'est vraiment une grossesse idéale, en réalité. Ça doit être pour ça que mon fils, tu sais.
Et tu me disais alors que au départ tu voulais accoucher sans péridurale.
Ouais, c'était un peu mon.
Alors que t'avais peur en fait de.
Ouais,
toute la
mais
durée
tu
de
sais,
la
c'était un peu genre le truc.
Le challenge.
Tu sais, ma mère n'a pas eu de péridurale, ma grand-mère n'a pas eu de péridurale. Elles sont là, elles sont en bonne santé, elles ont deux enfants. Ma mère a eu deux enfants en pleine forme. Pourquoi je ferais la péridurale? Et donc quand mon gynéco m'a dit bon alors vous la voulez ou pas, je lui ai dit non, je la veux pas. Et il m'a quand même dit, ouais, mais on fait quand même la visite avec l'anesthésiste parce qu'on ne sait jamais. Et puis, tu sais aussi pourquoi je ne voulais pas la péridurale, c'est parce que j'ai une peur affreuse des seringues et des aiguilles. C'est un truc. J'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. Donc, tous les mois, il fallait que je fasse la prise de sang. Et c'était un enfer.
Ah, oui.
C'est le truc. Tu vois, en fait, je donne mon bras comme ça et je tourne le bras. Je ne veux même pas voir parce que je sais que je ne vais pas le supporter.
Pourtant, tu as plein de tatouages sur tes bras.
Ouais, mais après, j'en suis revenue, en fait, de la peur de l'aiguille. Et en gros, il m'a dit, on fait quand même la visite avec l'anesthésiste et puis comme ça, vous pourrez prendre la décision le jour J. Et le jour J, la souffrance, quoi. Et j'ai dit, non, mais en fait, bon... Je veux dire, on fait des progrès. Il faut quand même vivre avec le progrès. On ne peut pas rester en arrière. Faites-moi la péridurale, s'il vous plaît. Mais je leur ai dit, en revanche, ne me montrez pas l'aiguille parce que sinon, je vais me crisper et je ne pourrai pas me piquer. Et pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que mon mari était dans la pièce. Et donc, quand l'anesthésiste est venu pour me faire la péridurale, il a vu, en fait, l'aiguille. Et genre, il a commencé à tourner de l'œil. Et l'infirmière lui a dit, asseyez-vous par terre, monsieur. Et genre, je lui dis, mais tu m'aides pas, là, en fait. Je voulais pas savoir. Et en fait, il m'a dit, non, mais il m'a dit, c'est hyper impressionnant, en fait, je m'attends. Enfin, tu vois, pourtant, c'est pas quelqu'un qui se laisse impressionner facilement, mais il m'a dit, franchement, quand j'ai vu l'aiguille, franchement, ça m'a fait quelque chose. Quoi. Mais sinon, voilà, après, franchement, ça... J'étais contente d'avoir la péridurale, honnêtement, je vais pas le cacher. Ensuite, mon fils est né au forceps aussi. Et ça, j'en garde pas un super souvenir, ce qui m'a valu une épisiotomie. Et ça, pareil. En fait, j'ai l'impression que pendant toute la grossesse, c'était genre parfait. L'accouchement, ça n'a pas été si parfait que ça, tu vois. Surtout qu'en plus, suite à cet épisio, moi, je suis restée couchée 3 jours, je pouvais pas me lever. Donc, je pouvais pas m'occuper de mon bébé.
Ouais.
Et ça, c'était assez... c'est pas un souvenir...
Qui s'en occupait, du coup, c'était les...
C'était les infirmières et les sages-femmes, ouais. Elles venaient le chercher pour le bain... Je l'ai allaité, donc ça, c'est pareil, alors, le truc de l'allaitement. C'est-à-dire que je me lève un matin, je l'ai allaité donc au bout de 3 jours, tu vois. Je me lève, je vais devant le miroir, je vois ma poitrine, je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Personne ne m'avait prévenu. Bon, j'avoue, je n'avais pas fait les cours de préparation à l'accouchement, mais genre, j'étais pas prête. Et franchement, j'ai paniqué. Tu sais, c'est ouf de le dire avec le recul, genre, oui, en fait, meuf, c'est juste ton lait qui montait, mais... je savais pas en fait. Et ça aussi c'était marrant, mais voilà, ouais, ces 3 jours où j'ai pas pu me lever, après t'es quand même, tu vois, t'as eu ton bébé, t'es contente, il est en bonne santé, tout va bien. Mais du coup, comparé à ma deuxième grossesse où là j'ai pas eu de péridurale, mais donc j'ai souffert, mais au bout de 2 heures j'étais sous la douche, j'ai pu m'occuper de ma fille tout de suite. C'est quand t'as les deux comparés, tu te dis, ah ouais, quand même, j'ai, enfin, tu vois, t'as pas les premiers trucs avec ton bébé, c'est un peu
Ouais.
C'est un peu triste, mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Je peux pas refaire l'histoire.
Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ?
Eh bien, figure-toi que ça aussi, c'est un truc... Donc, je vais avouer quelque chose. Donc, je ne sais pas si les gens sont prêts à entendre ce que je vais dire, mais je n'aime pas les enfants. Voilà, ça c'est dit. En fait, j'ai du mal... tu sais, enfin, je suis pas maternelle en tout cas, tu vois, je suis pas... Mon mari, par exemple, dès qu'il voit un bébé, il est en sang, genre... Et tu vois, moi, je suis pas du tout comme ça, j'ai pas cet instinct, genre... Tu vois, d'ailleurs, je sais pas pourquoi on parle d'instinct maternel, parce que je trouve que c'est pas un instinct, en fait, enfin, tu vois. Et d'ailleurs, ça aussi, je me disais, mais comment je serais avec mes enfants? Parce que du coup, c'est trop bizarre, genre, t'aimes pas trop... Et en fait, eh ben, ce qui est trop marrant, c'est que quand Ilias, mon fils, est né... et qu'on me l'a posé sur mon ventre, c'est comme s'il avait toujours été là. J'ai eu cette impression, en fait. Il n'y a pas eu d'avant-après, c'est genre, il est là et il a toujours été là. Et ça, c'est drôle, parce que je ne m'attendais pas à ressentir ce truc. Et bon, voilà, enfin, ouais, mes enfants, c'est... Bah, en fait, tu n'aimes pas les enfants, mais bon, les tiens, tu les adores. Hein, voilà. Mais ouais, voilà, c'est je crois que je ne m'attendais pas, en plus, par rapport à l'éducation que j'ai reçue et par rapport à... Enfin, comment on était mon frère et moi avec... Enfin, plutôt comment nos parents étaient avec nous. Je ne m'attendais pas à avoir ce type de relation avec mes enfants, mais je pense que c'est juste toi, en fait, qui décide de comment tu vas les élever, comment tu vas être avec eux. Au départ, moi, j'ai eu une éducation assez dure. Après, mes parents nous aimaient, hein, tu vois, mais... Mais ils étaient très, très stricts. Enfin, pour te dire, moi, j'avais peur de mon père, en fait. C'est genre, quand il était là, tu vois, il me disait, la table, elle est noire. Oui, OK, même si elle était blanche. Non, mais t'as raison. Genre, et en gros, il criait beaucoup. Enfin, c'était assez difficile. Et je m'étais dit, hein, tu sais, avant d'avoir des enfants, je ne reproduirais pas ça avec mes enfants. Mais en vrai, quand t'es dans la situation... moi je me suis surprise en fait à reproduire les comportements. Là où j'ai eu de la chance, c'est que je m'en suis rendu compte en fait, et que je me suis dit, tu vois, par exemple pour les devoirs, moi je me souviens, les devoirs avec mon père, c'était, bah, tu te faisais pipi dessus même avant de commencer, parce que tu savais que si tu te trompais, soit tu te prenais une baffe, soit t'engueulais, et tu sais, enfin, quand t'es un enfant de 7 ou 8 ans et que ton père lève la voix sur toi, enfin, tu trembles en fait, tu vois. Et en fait, avec mon fils, ça s'est reproduit, c'est-à-dire que quand il a commencé, ben, quand il était en primaire, tu vois, là, au CP, on a commencé à faire le devoir ensemble, et en fait, je me suis surprise, en fait, à... Tu vois, j'avais pas de patience, en fait. T'as l'impression que, en fait, l'enfant, il a 6 ans, mais tu penses qu'il peut te faire des divisions à 4 chiffres direct. Tu comprends pas pourquoi il n'y arrive pas. Et je me suis surprise à reproduire ce comportement, et je m'en suis rendu compte, en fait. Et j'ai dit à mon mari, ben, je peux pas gérer ça, en fait, parce que... Parce que je sais... Enfin,
tu connais
j'ai
les limites.
Voilà, j'ai encore trop tout ça en moi, et je sais que ça va... Enfin, je peux pas gérer ce truc, parce que sinon, je vais avoir un comportement qui va pas être cool avec les petits. Et du coup, lui, il a repris les devoirs, parce que lui, ça... Voilà, tu vois, ben, je t'ai dit encore, c'est ce truc, genre, oh, il aime trop les enfants. Hein. et voilà, et du coup, ouais, c'était... C'est un peu... J'ai fait un travail sur moi qui fait que je suis arrivée quand même à avoir une relation avec mes enfants que j'ai pas eu avec mes parents. Je suis fière de moi quand avec le recul, je me dis, j'ai... En vrai, il y a un truc que je me dis souvent, c'est genre, ça, tu l'as réussi. Tu vois, tout le reste, tout ce que je fais, en fait, hein, tu sais, la photo, le podcast, les robes de mariée, la couture et tout, je suis très fière de ce que je réalise, mais ma plus grosse fierté, c'est mes enfants.
T'as trouvé rapidement tes marques, du coup, avec ton petit bébé ?
Ouais, en tant que maman, j'ai trouvé très facilement mes marques. Et puis, mon mari m'a beaucoup aidée aussi. Hein. Enfin, ça, tu vois, c'est... Alors, c'est marrant parce que c'est genre un peu... Genre, lui, il a grandi en cité. Et tu sais, l'image... Surtout, enfin, mon mari, là, il va avoir 50 ans l'année prochaine. Donc, tu sais, tu vois un peu comment c'était en cité à l'époque. Enfin, à l'époque où il était jeune, genre, il faut montrer que t'es un homme, que ceci, que cela. Mais il a vachement géré. Enfin, franchement... En plus, il est intermittent du spectacle. Donc, du coup, il avait des horaires décalés. Donc, moi, je partais travailler tôt. Lui, il s'occupait du petit, quand on avait que Ilias. Ensuite, de Naïli. C'est lui qui les emmenait à l'école. Enfin, il changeait les couches. Enfin, tu vois, vraiment, enfin, on était une vraie team, tu vois. C'était pas genre juste toi, tu te débrouilles, moi, je m'occupe pas de ça. Là où j'ai eu un petit peu d'angoisse aussi, c'est quand j'ai... Parce que comme je te disais, ils ont 18 mois d'écart. Et du coup, quand j'ai accouché de Naïli et que je suis restée une semaine à l'hôpital, et quand ils m'ont dit « Bon, là, vous rentrez chez vous ?» J'ai dit « Non. » C'est pas possible, en fait. Le premier, c'est à peine marché. Je ne vais pas rentrer avec un bébé. Comment vous voulez que je me débrouille ? Alors, franchement, ça m'a vraiment angoissée en me disant « Mais je vais jamais y arriver, en fait. Je vais être toute seule avec eux. Enfin, comment je vais faire ?» Parce que mon mari, ben, fallait qu'il bosse. En plus, à l'époque, il n'y avait pas encore le congé paternité, tu vois. Et... je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et en fait, de toute façon, t'as pas le choix. Donc, tu rentres chez toi et puis ben, tu dois bien gérer, en fait. Mmh. Et après, Ilias, il a été... Enfin, tu vois, c'est aussi un petit garçon qui... Déjà, sa petite sœur, tout de suite, il a kiffé. Enfin, il était trop content d'avoir une petite sœur. Et il m'a pas rendu les choses difficiles, en fait. Tout s'est fait hyper naturellement. Mmh. Et du coup, non, c'était très fluide, je trouve.
Est-ce que ta deuxième, elle est arrivée par surprise ?
Oui. On savait qu'on en voulait deux. Mm. Et on s'était dit, ben, après Ilias, on attend genre 2-3 ans. Et en fait, le retour de couche ne m'a pas épargnée. Et donc, c'était pas genre... Enfin, on était contents, tu vois, mais genre... Oui, mais enfin, c'était pas vraiment prévu, quoi. Puis, ben, tu vois, moi, je me souviens encore de... J'allais chercher Ilias ben, à la crèche, il marchait à peine. J'avais mon ventre, il fallait que je le porte, parce que du coup, la crèche était à 10 minutes à pied de la maison. Mais, enfin, le pauvre, enfin, marcher 10 minutes, pour lui, c'était comme marcher une heure. Enfin, et c'est... En fait, tu vois, c'est tout ça. Je me disais, mais, enfin... déjà, le deuxième est dans mon ventre et c'est chaud, mais quand elle va sortir, ça va pas être possible, en fait.
Ça t'a fait stresser, ça, pendant ta grossesse ?
Ouais, ça m'a fait un peu stresser, quand même. Ça m'a fait un peu stresser. Je te dis, hein, au-delà du fait que, vraiment, j'étais très contente, enfin, tout de suite, hein, on s'est dit, bon, de toute façon, bah, on la voulait dans 3 ans, elle est là, ben voilà, on va faire avec. Mais c'était vraiment ce truc de, ils sont tellement proches que, tu sais, quand j'étais enceinte d'Ilias, je me disais, ah, ce serait trop bien d'avoir des jumeaux. Comme ça, on fait tout en même temps. C'est trop bien. Voilà. Et après, t'es débarrassée. Non, mais quand j'ai eu les 18 mois d'écart, j'ai dit, non, mais les mères de jumeaux, mais vas-y, c'est des reines, quoi. Enfin, comment elles font ? Moi, ils ont 18 mois d'écart. Je galère. J'imagine même pas le truc, quoi, en fait. Et du coup, ouais, je me disais, ça va être... comment je vais faire ? Mais encore une fois, ben, hyper entourée. Mon mari qui est là, qui assure. Moi, j'ai mes parents qui était à côté de chez moi à l'époque, tu vois. Donc, ma mère, elle m'a beaucoup soutenue et beaucoup, beaucoup allégée en prenant Ilias assez souvent quand elle voyait que j'étais en mode « là, je vais exploser ouais. ». Et du coup, non, ça a été... Enfin, très vite, mes craintes... En fait, tu prends vite tes marques aussi, tu vois, parce que comme je te disais tout à l'heure, de toute façon, l'enfant est là. Tu peux pas le mettre dans une boîte et dire « je reviens dans 2 heures ». Enfin, tu vois, c'est, voilà, tu gères. Et puis après, ben, quand... encore une fois, je pense que quand... Enfin, peut-être... Je sais pas si c'est une idée ou pas, parce que du coup, moi, mes deux grossesses sont passées assez facilement. Je me dis que du coup, ben, j'ai fait des bébés faciles. Et en fait, ils m'ont pas rendu la tâche compliquée, en fait. Ça a été, assez facile, finalement. Voilà. Mais bon, je pense qu'en 20 ans, t'oublies aussi, tu sais, genre.
C'est possible.
Tu gardes que les bons côtés du truc, genre...
Et donc, t'as pas eu de péridurale pour ta deuxième, non, ce que tu disais ?
Non, pas eu de péridurale. Pour ma deuxième, c'est mon... Alors, le gynéco que j'ai choisi, c'est le gynéco qui m'a mise au monde, et qui nous a mise au monde, d'ailleurs, mon frère et moi. Et alors, contrairement à mon premier gynéco, qui était un peu un hystérique, lui, c'était genre tout dans la détente. Mais genre peut-être un peu trop, mais en tout cas moi ça, enfin par rapport à ma première expérience, moi ça m'allait, puis voilà, il avait suivi ma mère, tu vois, donc je me suis dit en plus c'est cool, tu vois, je pourrais dire à ma fille que le gynéco qui l'a mise au monde, c'est celui qui m'a mise au monde aussi. Et je me souviens, franchement je m'en souviens toute ma vie, je l'ai vu genre le jeudi je crois, et il me dit bah on n'a pas fait le rendez-vous pour l'anesthésiste. Et donc je le regarde, je lui dis oui, mais en même temps c'est pas moi le médecin, donc moi je ne sais pas quand on doit faire ce rendez-vous, tu vois. Et il me regarde, il me dit oui, bon, enfin de toute façon maintenant c'est trop tard, hein, parce que mardi vous accouchez. Bah j'ai accouché le mardi.
Ah oui, d'accord.
Je dis ok. Et donc sans péridurale. Et ben je l'ai, comme on le dit, je l'ai senti passer.
Ouais.
Mais c'est cool en fait, parce que ça me fait, tu vois, j'ai eu les deux expériences. Et Et au-delà du fait que vraiment, vraiment ça fait mal. Hein. Je me revois hurler.
T'avais fait la préparation
J'avais fait la préparation ce coup-ci.
L'accouchement physiologique.
Ouais, je l'avais fait ce coup-ci et ça m'a aidée d'ailleurs, vraiment. Et puis ben, mon mari était là, hein, donc il m'a dit, mais j'aurais jamais cru que tu pouvais crier aussi fort. Je lui ai dit, crois-moi, si t'avais vécu ce que j'ai vécu, tu aurais crié aussi fort. Et donc ça s'est quand même bien passé, parce que pareil, moi j'ai eu des accouchements hyper rapides. Ben, pour Naïli, j'ai eu mes contractions genre à 6h, 5h30 du matin, les premières contractions. Et à 10h, même pas. Enfin, j'ai accouché en 3h en fait, tu vois, entre les premières contractions et la délivrance, 3h. Donc, ce qui, tu vois, ça va vite quand j'entends des femmes qui me disent, mais j'ai mis 24h. Je pense que si ça m'était arrivé à la première grossesse, j'aurais pas refait de bébé. À mon avis, accident ou pas accident, je sais pas, mais. Et du coup, ce qui est cool aussi, c'est que, voilà, je te dis, moi, après l'accouchement, au-delà du fait que, oui, j'ai souffert, mais 2 heures après, j'étais sous la douche, j'avais ma fille dans les bras, j'étais vraiment en forme. Enfin, honnêtement, j'aurais limite pu sortir de la clinique, genre, ça allait, quoi. Ouais. Contrairement à la première grossesse, c'était vraiment, j'étais là, mais, enfin, franchement, si on m'avait vendu ça comme ça, mais j'aurais pas fait de péridurale la première fois.
Et donc, te voilà de retour à la maison, maman d'un garçon et une fille.
Ouais.
Tu faisais quoi à l'époque comme métier ?
À l'époque, j'étais fonctionnaire.
D'accord.
Je bossais aux impôts. Mmh. Et du coup, ben, tu sais, j'ai eu mon... En plus, alors moi, j'avais un médecin aussi, pareil. Un médecin trop adorable, pro-allaitement, parce que moi, j'allaitais mes enfants.
Tu les as allaités longtemps ?
Ilias, je l'ai allaité 4 mois et okay. Naïli, je l'ai allaité 6 mois.
D'accord.
Et donc, du coup, lui, c'était en mode... il était trop pro-allaitement, donc j'allais le voir. Genre, je veux pas retourner travailler. T'inquiète. Il n'y a pas de problème. Il m'a mis en arrêt, le temps que je puisse les allaiter pendant un petit moment. Et donc, moi, j'ai vécu aussi très vite. Je pense que c'est aussi ça qui fait que je suis assez genre en mode... Quand je parle de ma famille, c'est genre nous quatre contre le reste du monde, tu sais.
Ouais.
Et c'est parce que très vite, j'ai été assez longtemps avec juste eux, quoi. Mmh. C'était genre, c'était la petite équipe. Et du coup, ça a été... quand je suis rentrée pour Ilias, bizarrement, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Parce que comme je te disais, je crois que les choses, elles sont vraiment faites hyper naturellement. Pour Nali, je m'en souviens. Mais ça a été... c'était assez facile, en fait. Franchement, on s'est vite adapté. On a vite composé comme une famille, tu vois. Franchement, je pense que toi aussi, t'as dû le vivre. Quand ils sont là, ils sont là. Et c'est comme si... puis c'est tes enfants, tu vois. C'est pas comme une paire de chaussures que tu ramènes chez toi. C'est genre, ils sont là et genre, voilà. C'est ta vie et t'es trop content. Et tu leur as déjà fait de la place, en fait. Donc, voilà, tu les accueilles et c'est... Voilà.
Et alors, tu bossais aux impôts et donc absolument rien à voir avec ce que tu fais
aujourd'hui. Rien à voir avec ce que je fais. Et c'est quand... c'est pendant mon congé maternité pour Naïli que j'ai commencé... Alors moi, j'ai toujours été fan de toute façon la mode et tout, c'est trop mon truc. Je voulais faire des études là-dedans, mon père n'a jamais voulu. Et c'est quand... j'étais en congé maternité et... Bon, au-delà du fait que tu dois t'occuper des enfants, mais des fois, ils dorment. Mmh. Et juste, toi, t'es là, tu sais pas trop quoi faire de tes journées, parce que t'es seule avec eux. Et j'ai commencé à la couture, à ce moment-là. Et je te dis, au bout de 6 mois, il a fallu que je retourne au travail. Après, moi, étant fonctionnaire, j'avais la chance de pouvoir avoir des horaires décalés. Et puis, mon mari aussi, de par son métier... avait des horaires décalés. Donc, du coup, moi, je partais très tôt le matin. En fait, j'arrivais au travail à 7h30.
D'accord.
Mais ce qui me donnait la possibilité de partir à 16h à la fin de la journée. Donc, tu vois, c'était quand même trop cool parce que, du coup, moi, ce truc-là aussi m'angoissait. Le fait de... Une fois que tu les mets à la crèche... Enfin, tu sais, il y a ce truc où, en fait, il y a tellement de choses qui vont faire que tu vas pas voir. Et ça m'angoissait genre trop. Et du coup, je voulais pas arriver le soir trop tard chez moi. Parce qu'en fait, t'arrives, tu fais à manger, tu leur donnes le bain, ils vont se coucher. Enfin, Tu vois, c'est chaud quand même.
Si tu voulais pas rater de moment.
Voilà, ouais, je me suis dit le plus. Bah, d'ailleurs, il y a cette espèce de petit teigne là. Il a marché à la crèche, j'étais trop vénère. Quand je suis arrivée le soir, ils m'ont dit il marche. Ah, j'avais le seum, putain. en fait, voilà, une fois que tu commences à les confier, ben, du coup, il y a trop de choses que tu rates, tu vois. Mmh. Et en plus, plus ça va et plus c'est important. C'est-à-dire que tu vois, maintenant, ils sont grands et. Ils ont leur vie en vrai, tu vois, il y a plein de choses que je sais pas et je trouve ça, enfin, c'est normal en fait. Mais genre, c'est trop frustrant, tu veux trop tout savoir. Donc ouais, on ça. Et avec, du coup, mon mari, lui, il avait des horaires où il commençait plus tard, donc c'est lui qui s'occupait de le matin et du coup, moi, je m'occupais de le soir. Mais on a rapidement mis en place une organisation. Et en plus, moi, quand j'ai eu Ilias, j'avais la possibilité aussi de. Passé à 80%, je suis passée à 80%, donc je travaillais pas un jour par semaine, c'était le vendredi, parce que du coup, comme ça, enfin moi je voulais pas couper ma semaine, en fait je trouvais que le mercredi c'était nul, parce que de toute façon mon mari pouvait s'occuper d'eux le mercredi, donc c'était pas la peine que je prenne le mercredi, et du coup ça me faisait vraiment trois jours d'affilée avec eux, et avec le boulot on avait une compensation financière, tu sais, donc moi en fait, une fois que j'ai eu mon fils, j'ai jamais... Après mon fils, je ne suis jamais retournée travailler à temps plein. Quand Naïl est née, c'est pareil, j'ai continué le 80% et après je suis passée à 50%. Tu sais, c'était genre, bientôt je vais vous quitter.
Tu t'en allais petit à petit.
Et parce que de toute façon, c'était. Enfin, moi, pareil, on avait du mal. Enfin, moi, j'avais du mal. J'avais pas du mal à aller. Enfin, comment t'expliquer? Quand j'ai eu mes enfants, en fait, très vite, je me suis dit. Ce sont des êtres à part entière, tu vois, je peux pas me les accaparer en fait, ils ont, voilà, ce sont des personnes, c'est-à-dire que un jour ils partiront, donc déjà mets-toi ça dans la tête, ce qui fait que j'ai tout de suite bien fait attention en fait à pas m'oublier en tant que femme et en tant qu'épouse parce que bah déjà je pense que pour eux c'était bien, tu vois, qu'ils puissent aussi savoir, enfin très tôt voir d'autres personnes, ne pas forcément être avec moi, tu vois, même si c'était dur, mais je trouvais que pour eux, pour leur équilibre, je trouvais que c'était bien. Donc du coup, j'ai très vite, tu vois, fait attention à pas trop les... Genre... genre, vous êtes à moi, non, personne ne peut... Mais après, comme tu... Moi, je l'ai confié à ma mère, donc tu vois, genre à ma mère, à ma grand-mère... à mon père, confiance. Donc voilà, tu pars, moi ma mère, je me souviens, elle a pris Ilias, il avait 9 mois, elle l'a pris avec elle aux Antilles pendant 2 mois, tu vois, mais, ah ouais, mais pour moi c'était pas un problème, enfin, de toute façon il était avec ma mère, je sais que voilà, il était au meilleur du meilleur. Après pour le confier, en plus tu sais, t'entends tellement de trucs, enfin c'est hyper compliqué quand même, tu vois, parce que tu laisses ton enfant à quelqu'un que tu ne connais pas, et en qui tu dois avoir confiance, franchement c'est chaud. Donc ça, j'ai eu, je voulais vraiment retarder le truc au maximum du maximum. Et d'ailleurs, Ilias, il a fait un peu, il était allé chez une nounou et ça s'est pas super bien passé. Ensuite, on l'a mis à la crèche et quand Naïli elle est née, le pote de mon mari avait une maman qui gardait les enfants et c'est elle qui s'est occupée des enfants jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. D'accord. Tu vois. Et en gros, ouais, on a quand même mis en place une organisation assez facilement. Et moi, ben, de par nos métiers, en fait, on s'est vite arrangé, tu vois, pour qu'ils passent en tout cas le maximum de temps avec nous, quoi. Le moins de temps ils pouvaient passer avec des étrangers, en tout cas. On a fait en sorte que ça puisse être possible. Bah, pareil, tu vois, comme je travaillais pas le vendredi, du coup, le vendredi, c'était avec moi. Mon mari, enfin... On s'arrangeait aussi avec la maman de l'ami de mon mari pour les jours où on ne travaillait pas, on ne les mettait pas. Enfin, vraiment. Voilà. Si, par contre, tu vois, enfin, très vite aussi, pareil, moi je les ai toujours emmenés avec moi partout, très très tôt. C'était une organisation, mais tout le temps ils étaient avec moi. Je les ai vite habitués, tu vois, à voir du monde, à ne pas avoir peur des gens. D'ailleurs, mon fils, c'était un truc de ouf. Genre, il parlait à tout le monde. T'sais. Et en plus, moi, je ne suis pas très sociable dans la vraie vie. Ça ne s'entend pas là, mais en vrai, je suis. Pas du tout social, mais lui, genre, il parlait à tout le monde, et c'était incroyable, genre, il voyait quelqu'un, il lui racontait sa vie, quoi, et toi, c'est là, on n'a pas le temps, et voilà, enfin, ouais, c'était, ça s'est fait assez... Ouais, je me répète, mais tout a été assez fluide. À partir du moment où, pareil, moi, je sais que... Voilà, enfin... Tu vois, je disais à mon mari, ben, il faut... Enfin, tu vois, là, ça fait genre un mois qu'on n'est pas sortis. On les laisse à la famille. On sort. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Et très tôt, hein, même quand ils étaient tout petits... tu vois, même à un mois, je pouvais les laisser à ma mère pendant une demi-journée ou un truc... sans problème, en fait. Tu vois, c'était ma mère, donc... Voilà.
Important de garder son équilibre.
C'est ça. Parce que, comme je te disais, un jour, ils sont plus là, en fait. Et puis, tu sais pas, en fait, comment vont évoluer... Enfin, les enfants, j'ai l'impression que c'est toujours une pochette surprise. Tu sais jamais ce qui t'attend à chaque âge. Tu sais pas ils vont, te détester, et puis de toute façon ils seront jamais à la maison, et toi super, tu te seras occupé d'eux comme t'es genre tout le temps avec eux à pas vouloir tu vois, t'auras sacrifié tout ton toute ta jeunesse en fait pour récolter
mais tu prends les devants au cas où,
voilà, non mais et puis de toute façon pour eux c'était quand même mieux de savoir que, tu vois, pareil avec mes enfants, moi je sais que chez moi, tu vois, il y avait pas de communication, t'avais pas le droit d'avoir un avis, t'avais pas le droit d'exprimer tes pensées, enfin on se parlait pas, tu vois, et pour moi c'était hyper important que eux sachent qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent, enfin tu sais, c'est des personnes, tu vois, c'est pas genre des petits robots ou des poupées que tu mets là et qui doivent tout le temps... Enfin, bon, après, c'est un autre sujet parce que forcément, mes parents ont eu des éducations qui font que... Et j'ai mis du temps à le comprendre, mais j'ai fini par le comprendre. Et du coup, je leur en veux pas, tu vois. Mais en tout cas, pour moi, c'était... moi, je veux que mes enfants, ils sachent qu'ils ont le droit d'exprimer ce qu'ils ont envie de dire, et que ce sont des... Voilà, que ce n'est pas une prolongation de moi. Et pareil, un truc hyper important aussi, c'est la projection, tu sais, où tu te dis tout le temps... ah, moi, j'aurais pu faire ça, du coup, j'ai un enfant et peut-être il accomplira. Ouais, en fait, non, c'est-à-dire que... il fait... Moi, mon fils, souvent, je lui disais, écoute, franchement, si tu veux être éboueur, et moi, j'ai aucun souci. Tu fais ce que tu veux, hein, tant que tu l'as choisi, tu fais ce que tu veux. Moi, jamais, je te dirais, ne fais pas ça. Sauf l'administration. Ça, ils n'ont pas le droit. Parce que je l'ai expérimenté. Donc, je lui dis, non, ça, c'est pas pour vous. Oubliez. Mais voilà, tu vois, c'est hyper important. Je trouve que pour la construction, pour la confiance en soi, pour tous ces trucs, en tout cas, moi, en plus, dont j'ai manqué, je trouve que c'est hyper important de vraiment très vite les faire réaliser qu'ils ont le droit d'être qui ils sont, en fait. Voilà.
Ça ferait une parfaite transition, justement, pour revenir sur le Black Lives Matter. Ouais. Donc, il y a eu tout ce phénomène, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais il y a quelques mois. Comment, toi, tu l'as vécu en tant que femme noire
En tant que femme noire, en tant que maman, en tant que sœur d'un homme noir, cousine d'un homme noir, femme d'un homme noir. C'était très... je t'avoue que c'est... Tu vois, même là, d'en parler, ça me perturbe encore. Et je pense que ça me perturbera toujours, de toute façon. Parce que... Enfin, franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup... moi, je pouvais pas lire un truc sans mettre à chialer, déjà. Ouais. Ça a été hyper compliqué. Et c'était... En même temps, c'était bien parce que... Enfin, je sais pas comment vraiment l'exprimer. C'est hyper sensible, ce sujet, pour moi, parce que... Parce que, en fait, tu te dis, c'est cool, en fait, que les gens se rendent compte des choses. Et en même temps, tu te dis, mais... Enfin, nous, c'est notre vie, en fait. Et en fait, là où j'ai un réel problème, c'est que tu vas dire aux gens, tu sais, c'est comme ça. Et les gens, ils vont te dire... quand je dis les gens, je dis les personnes blanches. Hein. Oui. Les gens, ils vont te dire, non, mais c'est pas vraiment comme ça. Et en fait... Je comprends pas pourquoi, quand on dit quelque chose, on veut toujours... tu sais, juste, je te dis un truc, dis-moi, c'est dur, alors, je suis désolée. Enfin, n'essaye pas, en fait, de me dire que ça n'existe pas, ou que, en fait, c'est juste... Si je te dis que j'expérimente quelque chose, c'est vraiment que je l'expérimente. C'est-à-dire que, moi, quand j'ai posté la photo sur Instagram avec mon fils, honnêtement, je m'attendais pas à avoir autant de likes et autant de retours...
Alors on va juste rappeler ce que tu as mis du coup comme texte.
J'ai posté une photo avec mon fils en expliquant que, en fait, moi, en tant que... C'est un truc, encore une fois, c'est... Genre, c'est notre vie, en fait. C'est comme ça. C'est-à-dire que très vite, mon fils, on lui a dit, écoute, la réalité, c'est ça. Tu vois, c'est triste, en fait, de dire à ton enfant, ben, t'es noire, en fait, donc de toute façon, pour toi, ce sera compliqué. Tu vois, en fait, t'as pas envie d'élever tes enfants leur disant qu'il faut que, parce que ce sont des personnes noires, il faut qu'ils se battent plus, il faut que ce sera plus compliqué pour eux, qu'il y a des choses auxquelles, potentiellement, peut-être, jamais ils n'auront accès du fait de leur couleur. Enfin, t'as pas envie de dire ça à tes enfants, en fait. T'as juste envie de leur dire, moi, mes enfants, je leur dis, enfin, vous êtes formidables, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire que, en vrai, on pourrait faire comme si ça n'existait pas, la couleur. Mais on nous le renvoie tous les jours dans la face. Donc, de toute façon, on peut pas faire autrement. Et donc, t'expliques à ton fils. Enfin, moi, quand mon fils, il sort, déjà, je lui dis, il a 20 ans, mais il doit m'envoyer un texto. C'est-à-dire que le matin, si je me lève et que je vois qu'il n'est pas dans son lit, eh ben, je l'embrouille en fait en lui disant « Tu ne m'as pas envoyé de texto pour me dire où tu étais. »
Parce que toi, c'est quoi ces peurs à ce moment-là ?
Je
ne
veux pas me lever le matin sans le voir que son lit est vide, sans savoir où il est. Parce que ça veut dire que potentiellement, il est peut-être au commissariat, il est peut-être à l'hôpital, il est peut-être mort. Mais c'est une réalité en fait. C'est-à-dire que...
Un danger parce qu'il est
voilà.
Noir.
Voilà, en fait, en tant que maman d'un jeune homme noir, eh ben, ouais, franchement, quand je me lève le matin et que je le vois pas dans son lit, ça me traverse l'esprit de me dire que ça se trouve, il est décédé quelque part. Et je ne le sais pas. Et franchement, ça, c'est... Bah, tu vis avec, hein, en fait. C'est pas une angoisse que j'exprime tous les jours. Mais effectivement, c'est un truc... C'est, de toute façon, pour mon mari, c'est la même chose. Hein. C'est franchement... Je lui dis, mais fais attention, tu vois, enfin, fais attention parce que c'est comme ça en fait. C'est comme ça.
C'est vivre avec tous les possibles, mais exactement. Toujours être aux aguets.
C'est ça. C'est-à-dire que voilà, t'as pas ce privilège en fait de traverser ta vie de façon, tu sais, genre insouciante. Tu peux pas en fait. Tu peux pas parce que t'as ça en fait qui te. Et tu vois, alors mon fils, il a un peu une dégaine de. Tu sais, des petits de cité, quoi. Enfin, moi, ça me pose aucun problème. Parce que ça aussi, c'est un sujet. C'est-à-dire que lui, il aime s'habiller comme ça. Son père lui dit, oui, mais quand tu t'habilles comme ça, tu te catalogues. Ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que, en fait, en réalité, je devrais avoir le droit de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. Parce que c'est pas parce que je suis habillée comme ça que je suis un dealer, que je suis un voleur, que je suis... Enfin, tu vois, à un moment donné, ça va. Tu peux pas réduire quelqu'un juste à sa couleur de peau. Enfin, faut arrêter, en fait. Mais pour moi, c'est pas un truc qui... Moi, je suis assez... Enfin, je crois pas trop en la nature humaine, hein, déjà, de base. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont prouvé que, malheureusement, ben voilà. Et en gros, pour moi, c'est pas quelque chose... Enfin, j'aimerais... Hein, franchement, dans l'idéal... Moi, souvent, je me dis, et c'est pour ça que j'ai créé le podcast, je me dis, moi, j'aimerais que, en fait, tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai expérimenté, j'aimerais bien que mes enfants et les enfants de mes enfants, s'ils ont des enfants, ne l'expérimentent pas. Mais franchement, je suis pas dupe. Je sais que ça changera pas. Pour moi, ça changera pas.
T'as expérimenté quelque... quoi, toi, par exemple ?
Moi, qu'est-ce que je pourrais te raconter ? Le jour où j'ai postulé au McDo, hein, c'était même pas genre un poste, tu sais, je suis pas allée chez, je sais pas, genre... Je sais pas, dans une grosse boîte pour un poste de ouf, c'était juste pour être employé polyvalent au McDo, et que je suis arrivée et que le mec m'a dit bah, vous êtes en bac S, vous êtes pas en BEP.
Ouais.
pourquoi? Tu vois, genre, la meuf est noire, elle fait des études scientifiques, bah, juste. C'est vrai en fait. Ouais, en fait, ouais, c'est vrai. Ce jour aussi où, ben, quand je bossais dans la fonction publique, où une dame me dit, c'était au mois de mars, donc il faisait froid, et elle me dit vous devez avoir froid, vous, aujourd'hui, ça doit être compliqué pour vous, parce que vu là d'où vous venez, ouais, ben, en fait, je suis née à Trappes, dans les Yvelines, donc l'hiver, je connais comme toi, en fait. Et en fait, c'est. Le truc le pire, en fait, c'est que les gens, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils te disent. C'est-à-dire qu'ils se rendent pas compte de la violence. De leurs propos. Et tu vois, ben pareil, ma fille, on en parlait il n'y a pas très longtemps, elle nous racontait quand elle était au collège, les petits éteignaient la lumière de la salle de classe et disaient à un de leurs camarades « Ah, Mohamed, souris comme ça, on te verra dans le noir. » Et en fait, elle nous disait « Ben, moi, en fait, j'étais genre super contente que ce soit pas moi la cible de ces micro-agressions, tu vois. » Et plein de trucs comme ça, on lui a dit, parce que ben, faut savoir que Nous, je ne sais pas, des fois, tu as des enfants, ils sortent. Moi, ma fille et mon fils n'ont pas du tout la même couleur. Mon fils, il est même plus clair que moi. Et ma fille, elle est entre mon mari et moi. Donc, elle est plus foncée que moi. Et on lui a déjà dit, et même pas des personnes blanches, en fait, juste ses potes, genre, tu dois être trop dégoûtée quand même de ne pas être métisse comme ton frère. Mais tellement nourrie de ces choses, tu vois que même des gens comme de la même couleur que moi vont se permettre de lui dire des trucs comme ça. Parce qu'en fait, on nous apprend que quand t'es métisse, ben, si t'es métisse, ce sera plus facile pour toi, en fait. Et je crois que le travail de déconstruction, il est trop long. Je sais même pas si je serai là pour voir ça, en fait. Et c'est triste, hein, mais je me dis... Enfin, c'est pas possible, en fait. Il y a tellement de choses à déconstruire, tellement d'éducation à faire que... Et c'est pareil, enfin, moi, tu vois, au début... Je suivais aussi beaucoup de comptes comme ça, tu vois, qui dénonçaient le racisme et tout. Et je me suis rendu compte que pour ma santé mentale, c'était pas possible, en fait. Parce que tous les jours, je me levais, ben, tu sais, le premier truc que tu vas sur Instagram et tu vois ça. Et du coup, toute ta journée, elle est flinguée parce que ça t'a retourné le bide. Et en même temps, tu te dis, ouais, mais moi, si je suis pas ça, qui va... Enfin, tu vois, donc c'est hyper compliqué. C'est genre, t'es une schizophrène dans ta tête. Et en fait, et pareil, tu vois, moi, je me souviens que j'avais posté une photo avec mon mari... où je parlais du Black Love, et on m'a demandé ce que c'était, et en fait, j'ai même pas répondu, parce que, en réalité, je suis arrivée à un point où je me dis, enfin, en 2020, t'as tous les moyens à ta disposition pour faire ton éducation, et en vrai, c'est pas moi, la personne qui est dans le rôle de la personne oppressée, entre guillemets, qui doit faire ton éducation, en fait. Déjà, enfin, tu vois, déjà, rien que ça, en fait, c'est-à-dire que, si toi, t'estimes que t'as pas à faire les recherches, bah, je peux rien pour toi, en fait. C'est, voilà, ça résume tout. Et pour en revenir à mon fils, bah, les gens, ouais, ils se rendent pas compte que... Pourtant, moi, j'habite dans un endroit où c'est cool, hein. C'est une petite résidence, on a un petit bois à côté. Enfin, tu vois, j'habite pas non plus dans un... Parce que je pense que, pareil, hein, il doit... Enfin, si on habitait, je sais pas, à Saint-Denis ou dans n'importe quelle autre ville du 93, je pense... Alors là, à mon avis, je le laisserais même pas sortir dehors. Non, mais vraiment, parce que je pense qu'en plus, dans ces villes-là, c'est encore plus compliqué que là, moi, où je vis. Et en fait, bah ouais, c'est... Enfin, moi, je voulais que les gens, ils se rendent compte, en fait, que de ce que c'est nos vies au quotidien, en fait, nos vies de maman, de garçon noir, parce que les filles, c'est encore un autre sujet. Mais quand t'as un garçon noir, ben, très vite, tu... Enfin, t'intègres le fait, en tout cas, que... Enfin, moi, franchement, hein, nous, on lui a vite dit, hein, non, mais quand tu te fais arrêter, sois poli, monte pas en pression, pas un mot plus haut que l'autre. En plus, mon fils, il est genre, c'est trop une tête brûlée, tu vois. Enfin, des fois, je lui dis, mais juste... Je lui dis, juste pour avoir la paix, tu peux pas, genre, dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Comme ça, c'est tranquille. Et
à donc, quel âge vous lui avez parlé? Vous avez commencé à parler tout ça?
Je pourrais même pas te dire à quel âge, parce que c'est genre quelque chose qui est...
C'est progressif.
Ouais, et en fait, ça se fait, encore une fois, hyper naturellement. C'est-à-dire que, enfin, je pense qu'on a commencé à lui en parler quand il était au collège, tu vois. En fait, c'est quand tu te rends compte que, bah, tu sais, quand déjà il commence à sortir, mais pas genre juste aller jouer avec ses potes dans la résidence, juste, tu sais, il commence vraiment à avoir des traînes dans la ville, ce genre de choses. Et où tu lui dis, ben, ok, enfin, mais en tout cas, maintenant, tu fais attention quand même. Tu fais attention. Déjà, tu fais attention où tu vas, tu fais attention avec qui tu y vas, et tu fais attention que si tu rencontres les policiers, tu fais attention comment tu leur parles. Pas un mot plus haut que l'autre. Fais profil bas, en fait. Et c'est triste, mais moi, je préfère qu'il fasse ça et qu'il rentre chez moi plutôt que je le retrouve ou que je ne le retrouve pas. Enfin, c'est pas... Franchement, c'est pas... On peut pas le comparer aux États-Unis parce que je pense que, enfin, en plus, on n'a pas du tout la même histoire. Et je pense que, enfin, la police n'a pas la même liberté d'agir que là-bas. Mais c'est une réalité. Enfin, vraiment, c'est pas un truc qu'on dit pour se faire plaindre ou quoi que ce soit. C'est une réalité. Moi, je me souviens, mon frère, il s'était fait arrêter. Je sais pas, moi, je devais avoir genre 16 ans. Donc, tu vois, il avait genre 13 ans, tu vois. Et du coup, ils nous ont appelés. Et mon père, il a débarqué là-bas. Mais tu vois, en fait, je crois en plus qu'ils n'avaient rien fait. Tu vois, ils rentraient du foot, je crois, je me souviens. Ils rentraient du foot, c'était genre 3-4. Et genre, ils sont passés. Puis en plus, ben, il n'avait pas de pièce d'identité, tu vois, il avait 13 ans. Je sais plus trop pourquoi ils les ont embarqués. Et mon père, il a débarqué là-bas, il a même pas cherché à comprendre. C'est pour lui, c'était même pas genre, de toute façon, je veux même pas savoir ce qu'il a fait. Déjà, à la base, il a 13 ans, pourquoi vous l'embarquez, en fait? Tu sais, il a même pas... il est parti là-bas, il a fait un scandale. Pareil, mon mari, il a... Pareil avec ses frères. En plus, mon mari, il a 4 frères. Eux aussi, ils ont des histoires avec la police qui, quand tu te la racontes... Tu sais, ils te la racontent, t'es là. Ouais, quand même, enfin, c'est chaud, quoi.
Ça, vous les racontez à vos enfants?
Ouais, parce qu'il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils sachent que... Moi, je suis désolée, hein, je veux jeter la pierre à personne, mais pour moi, quand mon enfant se retrouve en face d'un policier, pour moi, il est en position de danger. Je suis désolée de le dire, mais pour moi, la réalité, c'est ça. Donc, t'es jamais serein quand tu te retrouves face à un policier. Et pareil, donc pour moi, il est hyper important. Je lui dis, moi, je veux pas être le genre, tu me dis pas ton emploi du temps, mais quand, par exemple, tu sors le soir... Tu sais que tu vas pas rentrer, tu m'envoies un message, comme ça moi je le vois le matin quand je me lève, et je sais que t'as passé la nuit à tel endroit, où, voilà, et je m'attends pas à genre ce que mon téléphone y sonne et qu'on me dise « ouais, votre fils il est là », ça c'est, je veux pas vivre avec ça en fait, ouais. C'est impossible, impossible.
Et est-ce que dans, parce que toi du coup maintenant tes enfants sont grands, t'as traversé toute l'éducation, les écoles, etc., est-ce que t'as senti... du racisme aussi
Moi, tu vois, mes parents, j'ai été éduquée en mode faut pas faire de bruit, faut être invisible, tu vois, faut pas te manifester, faut pas. Et nos enfants, on les a pas éduqués de cette façon. Mais il y a quand même des choses, tu vois, par exemple, pour l'histoire de la lumière, ma fille, elle dit ben, tout le monde rigole, alors qu'en fait, c'est hyper violent, tu vois. Elle me dit toutes ces micro-agressions, en réalité, les gens, c'est pour eux, c'est juste des blagues, mais en fait, c'est pas juste des blagues. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je crois qu'on a tellement intégré aussi, nous, le fait que, tu vois, par exemple, elle s'est pas rebellée contre ces personnes et la personne concernée non plus, parce qu'en vrai, ben, tu l'intègres, quoi. Tu sais, tu dis, je sais pas, limite, c'est normal. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est un. Trop, on nous a appris à. Tu sais, à dire, ah oui, c'est drôle. Mais. Moi maintenant, parce que je trouve que la génération de mes enfants, elle se laisse moins faire. Je pense qu'il y a des choses que les gens faisaient, nous, quand on était petits. Aujourd'hui, tu le fais, genre, on te termine sur place. Mm. Mais en vrai, non, je pense... Honnêtement, je pense pas avoir... Enfin, en tout cas, moi, en tant que maman de mes enfants... j'ai jamais été témoin en direct ou ils m'ont jamais rapporté, à part, je te dis, les histoires que ma fille nous raconte maintenant, mais pendant leur scolarité, ils m'ont jamais rapporté de choses qui m'ont... Et en plus, nous, on est dans un endroit où il y a quand même pas mal de diversité, tu vois, donc c'est pas... ils sont pas les seuls, ils étaient pas les seuls noirs de la classe ou ce genre de trucs. Et d'ailleurs, ma fille, elle appréhende vachement ce truc aussi, parce que là, elle avait, par exemple, une offre pour étudier dans un lycée dans le Marais. Et genre, elle a dit, non, mais moi, je veux pas être la seule noire de... Et elle y est... Elle a dit non.
Elle a refusé, du coup, à cause de ça.
Ouais. Il y a des... Tu vois, par exemple, elle a pris option Sciences Po en terminale. Et elle trouve ça super intéressant. Et quand on lui a dit, ben, tu peux aller à Sciences Po, elle a dit non, c'est hors de question. Enfin... Et c'est même pas... Au-delà du fait d'être la seule noire, elle me dit, mais... Enfin, les gens là-bas, Enfin, voilà, je sais comment ils vont être avec moi, quoi. Tu vois, c'est ouf qu'elle en ait conscience comme ça et qu'elle se... Enfin, elle se ferme la porte. Et en même temps, c'est même pas elle se ferme la porte. En fait, elle se protège juste, tu vois. Elle se dit, moi, je veux pas endurer ce genre de choses. Enfin, je veux pas avoir enduré ça. Je veux réussir, mais je veux pas en passer par là, quoi. Je veux pas... Je préfère trouver une autre voie, mais ça, c'est... Voilà, parce qu'elle a complètement conscience que si elle va là-bas, ben déjà, il y aura pas beaucoup de personnes qui lui ressemblent. Et en plus, potentiellement, elle s'expose à des choses qui vont être violentes, en fait. C'est ouf, quoi. Qu'une gamine de 18 ans te dise ça et t'es là, ben... Et toi, tu peux pas... Tu peux rien dire, en fait.
Ouais.
Voilà.
Comment tu vois, toi, un changement possible, même si tu dis que t'as pas foi du tout?
Je te disais tout à l'heure que pour moi, il n'y a pas de changement possible parce que... Tu vois, c'est une conversation en fait, encore que j'avais hier avec mon mari, ma fille et une amie à moi. Et en fait, le problème, c'est que le white privilege, ça existe vraiment. Et tant que les gens ne seront pas prêts à lâcher leur privilège, ça ne changera pas. Et je pense que les gens ne seront jamais prêts à lâcher leurs privilèges. Donc pour moi, ça ne changera jamais. Mmh. En fait, c'est juste ça, en fait. C'est-à-dire que je peux le comprendre, hein. Je veux dire, bah ouais, tu veux pas partager le gâteau. Mais le problème, c'est que la condition, elle est là. Et en plus, c'est encore plus compliqué en France, parce qu'en France, il y a une espèce d'hypocrisie, de genre, mais non, mais il n'y a pas de problème, on est tous pareils. Non, mais enfin, déjà, enfin, regardons-nous. Enfin, ça, à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. C'est-à-dire que oui, enfin, il y a des personnes noires. Enfin, la France, elle a un vrai, vrai problème avec son passé colonial, son passé. De toute façon, on le voit là aux Antilles. Hein, enfin, la Martinique et la Guadeloupe, qui sont quand même censés être des départements français, sont laissés à l'abandon. Enfin, les gens ne connaissent la Martinique et la Guadeloupe que quand ils doivent aller en vacances. Mais sinon, tout ce qui se passe là-bas, genre les gens qui décèdent à cause de l'empoisonnement au chlordécone, je crois. Je ne sais même pas si c'est comme ça que ça se dit. Le fait qu'il n'y ait pas de CHU en Guadeloupe, donc pour se faire soigner, c'est la misère. Quand il n'y avait pas d'eau, enfin, tout ça, enfin, moi, je ne regarde plus la télé, donc... Ça fait pas très longtemps, hein, mais je ne regarde plus la télé. Mais jamais on en parle. Et comment c'est possible, en fait, pour un département français en 2020, comment c'est possible de laisser des gens vivre dans des situations pareilles? Et pourquoi? Ben parce que les Blancs, là-bas, ont le monopole de toutes les grandes entreprises. Et pareil, ils veulent pas lâcher le morceau. Et ben à partir de là, je vois pas comment tu peux faire quoi que ce soit, en fait. Tu peux manifester, tu peux exprimer que... Enfin, ton mécontentement, le fait que ça va pas, mais tant que au sommet ça change pas, enfin la base ça changera jamais, en fait. Enfin, moi je suis complètement, je te dis, désabusée. Donc tout ce que je dis à mes enfants, c'est faites le maximum pour vous en sortir, pour vivre bien déjà à votre niveau, et après voilà quoi. Mais tu vois, c'est moi, mon mari, lui, il est un peu plus optimiste. D'ailleurs, c'est bizarre parce que des deux, je pensais pas que ce serait le cas, mais tu vois, lui, il est persuadé que un jour, oui, il y aura des Noirs dans les conseils d'administration des grandes boîtes, etc. Mais moi, j'y crois pas une seconde.
Comment tu vois, quelques mois plus tard, avec du recul, ce mouvement de solidarité qui s'est créé à la mort de George Floyd?
Ça reflète un peu ce que je viens de te dire là, c'est-à-dire que tout le monde s'est mobilisé à l'instant T. Puis aujourd'hui, où est tout ce monde? On se pose la question. En fait, moi, c'était ça ma crainte, et elle s'est avérée vraie. C'est que, voilà, tu vois, encore une fois, je ne me suis pas leurrée. C'est-à-dire que, déjà, entre les gens qui ont récupéré, les gens qui ont posté juste pour faire bien et pour pas, genre, se faire bâcher par leurs fans, par leurs followers, pardon, genre, attends, toi, t'es pas dedans. Donc, ils l'ont fait, mais sans aucune conviction. Les gens qui l'ont fait alors qu'en réalité ils ont un passif de racisme, enfin tu vois, tous ces trucs là, enfin voilà, moi j'étais persuadée que voilà, à un moment donné, ben ouais, tout le monde en a parlé, mais que ça allait forcément s'étioler, et encore une fois, ben tu vois, c'est la nature humaine, en fait. C'est à dire que quand t'es pas concerné, en fait, tu t'en fous. Mais vraiment, enfin, moi, je me rends compte que les gens, ils sont comme ça. C'est-à-dire que quand t'es pas concerné, tant que ça touche pas ton petit confort, ta petite vie, en vrai, tu sais, tu vas dire, ah ouais, c'est dur, hein. Mais bon, en vrai, tu vois, toi, t'es là, tu te fais pas arrêter tous les 20 mètres pour un contrôle d'identité. Voilà. Et donc, du coup, ben, t'es pas concerné. Et du coup, ben, voilà, quoi. Tu laisses les choses se faire. Et sur le moment, tu vas te révolter. Ouais, c'est injuste. Mais en fait, au final, moi, ma petite vie, elle me va bien. Et je reste dedans, quoi. Donc,
oui, là, les gens, ils ont été concernés parce qu'ils ont vu les images en direct. Donc, ça les a atteints.
Mais combien de personnes sont mortes avant cet homme? Enfin, on n'en a jamais parlé. Et en France, enfin, les gens, je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Parce que, pareil, ils disent, non, mais en France, ça n'arrive pas. Mais faut arrêter de se voiler la face, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes racisées aussi qui sont mortes du fait des actes de la police. Enfin, c'est pas, je sais pas si tu te souviens des émeutes qu'il y avait eu en banlieue après le décès de Zied et Bouna. Tu sais, c'est une réalité, tu vois. Et quand bien même ils avaient fait quelque chose de mal, ils méritaient pas de mourir carbonisés dans... voilà, quoi qu'ils aient fait, je dis pas que... Mais ça mérite pas ça, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, j'en parlais avec mon mari là, aussi la dernière fois, où je lui disais, mais... Enfin, moi, je me mets à la place de ces mamans, et je me dis, mais moi, je deviens folle, quoi. On me dit ça, mais... Enfin, et... Je vais pas chercher, genre, oui, mais il avait fait quoi ? Enfin, mon enfant, il mérite pas de mourir carbonisé comme ça. C'est... Enfin, non. Je suis désolée. Et en gros, c'est... Tu vois, les gens, ils se rendent pas compte, en fait. Mais c'est, encore une fois, c'est ce que je te disais. Quand t'es pas concerné, tu réalises pas. Tu te dis pas, oui, c'est possible, oui. Mais en fait, si, c'est une vraie réalité. Et tu vois, on parlait aussi... Enfin, moi, quand je te dis que mon fils, potentiellement, il peut se faire contrôler 3 fois dans la même journée, c'est une réalité aussi. C'est-à-dire que, en fait, c'est toute cette hypocrisie, je comprends pas. En fait, tu vois, le contrôle au faciès, ça existe. Pourquoi ? Juste, on ne dit pas, oui, c'est vrai, ça existe. Pourquoi on essaye de trouver des chemins, tu sais, de genre, non, mais c'est... Non, mais en fait, si, ça existe. Et fin, quoi. Et donc, on se pose, tout le monde en parle, et c'est pareil pour l'histoire, pour le passé de la France. C'est-à-dire que tout est, tu sais, tout, ils veulent rien reconnaître. Mais en fait, à partir du moment où tu reconnais le truc, enfin, je te dis pas qu'on va, on va pas faire un procès. C'est juste qu'on a besoin d'en parler et qu'en parlant, c'est là où on peut trouver des solutions et c'est là qu'on peut faire changer les choses. Mais tant que les choses, elles sont niées, comment tu veux, quand tu vas à l'école et qu'on te dit, tes ancêtres sont les Gaulois, ouais, mais regardez-moi, enfin, et comment moi je suis arrivée là ? Ben, apprenez-le aussi aux enfants. Enfin, en fait, j'ai un pote qui disait ça d'ailleurs, et je trouvais ça hyper intéressant. Pourquoi on nous fait à l'école apprendre vos histoires et pourquoi on n'apprend pas aussi les nôtres ? Sachant qu'en plus, elles sont imbriquées. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, nos histoires, elles découlent des autres. Moi, mes parents, ils sont arrivés en France parce que le gouvernement a décidé que c'était cool de faire venir des Antillais en France pour faire, enfin, en leur faisant croire qu'ils seraient genre infirmiers et compagnie, et qu'en fait, au final, c'était des postes sous-qualifiés qu'on leur proposait, des emplois. Enfin, les femmes, on les faisait venir, elles allaient dans des châteaux où on les apprenait à devenir femmes de ménage gouvernantes pour des hommes importants, tu vois. Enfin, ben ouais, ben ça, c'est vrai, en fait. Et ça, c'est traumatisant pour des gens. Moi, mes parents, j'ai vu un reportage sur ce truc, d'ailleurs. Et comme je te disais tout à l'heure, tu sais, on parlait d'éducation et tout, et de pourquoi tes parents ont agi comme ça avec toi. Et ben, moi, mes parents, tu vois, ils avaient, en fait, les Antillais qui sont venus ici à cause du... Ça s'appelle le bimidum. Et ben, ils ne parlent pas de ça parce qu'ils en ont honte, en fait, tu vois. Et il y avait une fille qui disait que elle était venue pour ça, justement. Et qu'en plus, quand t'arrivais en France, donc ton billet, il était payé, mais c'était un billet aller. Et que le billet retour, il coûtait tellement cher que tu pouvais pas, genre, retourner dans ton pays. Enfin, dans ton pays, tu vois, le lapsus. Ouais. Tu pouvais pas retourner là-bas parce que le billet était trop cher. Et tu vois, elle est restée 10 ans à économiser pour son billet d'avion. Et en fait, l'année où elle a pu partir... retourner en Guadeloupe, en Martinique, je sais plus, bah son père était décédé l'année d'avant. Ça veut dire qu'elle a pas... Elle a vu son père quand elle est partie, elle l'a jamais revu, tu vois. Et toutes ces choses-là, moi, je suis désolée, il faut en parler, en fait. C'est pas... parce que c'est une réalité. Et du coup, tu peux pas faire comme si ça n'avait pas existé. Et tu peux pas faire comme si... Non, on est tous pareils. Ben non, en fait. Il y a des choses que... En fait, je sais pas. Tu vois, c'est comme un enfant, en fait. Quand tu lui dis, ben, t'as fait une connerie, ben, admets ta connerie, tu vois. Ben, voilà. Et après, on en parle et moi, je t'explique pourquoi c'est pas bien. Toi, tu peux m'expliquer aussi pourquoi t'as fait ça. Et fin, en fait, on passe à autre chose. Et ben, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'assoit à une table, tout le monde parle du truc. Et puis voilà, enfin, ça peut pas être autrement pour moi. C'est la solution, elle ne peut passer que par là. Tant qu'il y aura cette hypocrisie de genre, non, on est tous pareils, il n'y a pas de différence. Ben, à un moment donné, je sais pas, enfin, nous, tu vois, en vrai... Moi, mes parents, ils n'ont rien demandé. Hein. On leur a promis monts et merveilles. Ils sont venus ici. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, hein, je suis désolée, mais...
Ouais, il faudrait remettre à jour tous les
livres. C'est ça, c'est-à-dire que, tu vois, c'est tous ces trucs, genre... Ah, oui, mais... Enfin, genre... Ah, ils sont là. Bah ouais, mais c'est à cause de qui, en fait ? C'est qui nous chargeait ? Enfin, je sais pas. Genre, on s'est pas levé en se disant... Ouh, on va venir, tu vois, et même pour mon mari, tu vois, son père est arrivé ici, bah, il a bossé dans les usines Renault, il faisait le taf que les autres gens ne voulaient pas faire, je suis désolée, donc à un moment donné, il faut arrêter de toujours dire, ils viennent ici, bah ouais, bah, déjà, si vous nous aviez laissé tranquille, je pense que l'histoire, elle serait pas pareille, donc voilà, donc il faut reconnaître ses erreurs, je dis pas qu'il faut faire des... polémique de ouf ou je sais pas quoi, mais juste se poser et discuter des choses en fait. Et je pense que ça ferait du bien aux gens. Ça fait du bien aussi, tu vois, moi quand j'en parle et que j'exprime mes... comment dire ? Ma douleur ou tu vois, eh ben ça fait du bien en fait d'en parler. Donc laissez-nous... Et puis aussi arrêtez de nier ce truc, c'est-à-dire que quand on dit un truc, tu vois, ce truc de... Il y a eu une polémique il y a pas très longtemps, là, un humoriste qui a balancé des pierres... des pierres dans l'afro d'une jeune fille, tu vois. Et genre, on lui a dit, tu sais, c'est pas bien ce que t'as fait. Et le gars, au lieu de dire, ah, je suis désolée, je comprends que ce que j'ai fait n'est pas bien, non, l'autre, il est parti en disant, non, mais c'était pas méchant, non, mais c'est pas ça le sujet.
Oui, c'est comme si tu soulèves la jupe.
C'est ça, c'est pas ça le sujet. Juste, on te dit que ce n'est pas bien, tu vois, que. Moi, par exemple, moi j'ai une fille qui a une afro, j'ai pas envie que quand elle se promène dans la rue, on lui jette des pierres dans les cheveux, parce que sous prétexte que toi tu l'as fait et c'est cool en fait. Mmh. C'est juste ça. Donc quand on t'exprime quelque chose, écoute-le et accueille-le, plutôt que de dire oui mais. Non mais c'est pas le oui mais en fait, c'est juste on te dit ça ne va pas en fait. Et ça nous heurte, ça pose problème. Pourquoi à chaque fois il faut. Il faut justifier du truc, c'est-à-dire que, je sais pas, quand tu vas chez le médecin et que tu lui dis « t'as mal », il dit pas « non mais ça va, c'est pas grave enfin, », il t'écoute et voilà, ben pourquoi vous n'écoutez pas en fait, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a ce truc de « faut toujours, non, je te dis que c'est pas bien », et ben écoute et dis-moi. Après, il s'est dédouané, hein. Mais bon, moi je soupçonne que c'est parce que en fait ça prenait une telle ampleur qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il s'excuse, parce que de toute façon, à partir du moment où tu l'as pas fait tout de suite... Pour moi, c'est mort. Donc, voilà. Mais je sais pas, quand on t'exprime quelque chose, quand on te dit une douleur, tu vois, c'est comme pour les blackface, quand on dit aux gens, il faut pas les faire. Non, mais c'est juste pour rire. Non, mais je te dis qu'il faut pas le faire. C'est, je te dis que ça me blesse. Pourquoi ? Je comprends pas, en fait.
Ouais, il y a plein de choses à revoir.
Ouais.
Et tu parlais, du coup, de l'école et de l'histoire dans les livres, etc. Mm-hmm. Au niveau de l'éducation... Est-ce que, des lectures du soir, en fait, pour tes enfants, est-ce que tu trouvais aussi des livres ?
Pas pour les miens. Je sais que maintenant, tu peux en trouver beaucoup plus facilement. Mes enfants sont allés trop tôt. Donc, du coup, il y avait moins de... Il y en avait même pas, en fait. En revanche, moi, comme je me suis très tôt, je pense que j'étais... au lycée, je pense que je me suis beaucoup intéressée à l'histoire afro-américaine et aussi française, mais surtout des Antilles, parce que du coup, moi, je suis originaire de là-bas. Du coup, je les ai beaucoup sensibilisées à ça. Donc, on en parle souvent, c'est vraiment des conversations qu'on a hyper librement à la maison. Je sais que ma fille se documente aussi sur certains trucs. Après, là encore, où il y a une différence entre elle et moi, c'est que moi aussi, à mon époque, tu vois, il n'y avait pas de représentation, en fait. Pour eux, c'est quand même plus facile maintenant de trouver de la représentation, tu vois, sur Internet. Tu vois, enfin, tu sais, Internet, c'est le monde, quoi. Nous, on n'avait pas ça, on était limités. Donc, pareil, c'est assez facile maintenant de trouver de la documentation, des références, ce genre de choses. Mais du coup... J'ai pas pu leur raconter des histoires, tu vois, par exemple, quand ils étaient petits, parce qu'il y avait pas de... Il y avait rien. Rien n'était référencé. Et donc, on est juste passé directement au truc sérieux, tu vois. Mais quand même, assez vite, on en a parlé à la maison et on leur apprend... Enfin, mon mari, tu vois, par exemple, je lui dis, il faut vraiment que tu lui racontes... Enfin, l'histoire de son père, par exemple, c'est... Tu vois, il est arrivé ici, il est arrivé à Marseille, il a travaillé dans des usines, après les... Enfin, tu vois, c'est des trucs... Enfin, c'est l'histoire, en fait. Bah, c'est notre histoire.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Qu'est-ce que ça a changé pour moi ? Je suis devenue quelqu'un de moins égoïste. je dirais. Parce que avant mes enfants, je pensais beaucoup à moi et j'aurais pas cru que j'aurais eu cette capacité à donner, en fait. C'est pas un truc que je fais facilement. Et je pense que je suis devenue aussi quelqu'un de plus... de plus patient, peut-être. Même si j'ai quand même un caractère qui fait que quand ça vient pas tout de suite, c'est compliqué. mais ouais, me faire... Je pense que ouais, le plus important, c'est genre ne plus me faire passer en premier. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, mes enfants, c'est genre... tu vois, je me souviens que quand j'étais petite, on en parlait encore il n'y a pas très longtemps, tu vois, par exemple, quand ma mère, je voulais lui emprunter un truc, elle ne voulait pas, tu vois, c'est genre... Tu sais, mes parents, ils étaient vachement comme ça, genre, tu sais, la propriété, genre, ça, c'est à moi, t'y touches pas. Et tu sais, on n'avait pas le droit d'emprunter des trucs de nos potes. Ouais. Genre, si tu as un truc, tu l'achètes, ou si tu peux pas l'acheter, ben, tant pis. Et j'ai vache... Enfin, je trouve qu'avec mes enfants, je suis... hyper détendue par rapport à ça. Tu vois, ma fille, c'est genre open bar dressing, elle se sert, elle a même pas besoin de demander. Et j'aurais pas cru, en fait, que j'aurais été capable de ça, parce que j'étais quelqu'un qui était hyper attaché à sa propriété, tu vois. Genre, ça, c'est mes affaires, t'y touches pas. Après, avec les potes, tu vois, enfin, avec mes enfants, ouais, avec les potes, c'est encore un... Tu vois, je prête pas, mais pour mes enfants, c'est genre... et pareil, enfin, je suis assez... Enfin, vraiment, quoi qu'ils me demandent... c'est, enfin, sauf si c'est d'aller tuer quelqu'un, bien sûr. Voilà. Quoique, ça dépend si cette personne leur a fait quelque chose. Mais je suis pas... Franchement, quelle mère, de toute façon, ne serait pas capable de cacher un cadavre pour son enfant? Je ne sais pas. Mais voilà, ouais, franchement, quoi qu'il me demande... Enfin, en tout cas, et c'est aussi ce truc... Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'avais peur de mon père et j'avais pas l'impression que... Enfin, j'ai jamais eu l'impression que je pouvais compter sur lui, sur mes parents. Et pour mes enfants, c'est vraiment le truc où... Enfin, j'ai toujours voulu qu'ils sachent que... Déjà, ils nous racontent... Enfin, ce que tu veux me raconter, tu me le racontes. Ce que tu veux pas me raconter, tu me le racontes pas. Jamais je serai intrusive dans leur vie. Mais en revanche, qu'ils... Enfin, tu vois, je me disais... Franchement, je serais trop peinée. J'aurais trop de peine si jamais j'apprends qu'un truc important... t'as pas voulu m'en parler parce que t'avais peur ou parce que t'osais pas me le dire. Enfin, moi, je suis prête à entendre n'importe quoi. On est les premiers. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme la confiance en soi. C'est-à-dire que moi, mes parents, ben, comme je disais, ils étaient durs et je suis là. Enfin, j'ai trop pas confiance en moi, mais parce que, tu vois, j'avais toujours peur de mon père. Genre, comme je ramenais une note, est-ce qu'il sera content? Est-ce qu'il sera pas content? Est-ce que ça, je l'ai bien fait? Enfin, tu sais, c'était vraiment tout le temps comme ça, quoi. T'étais jamais serein, en fait. C'est toujours... je me souviens, enfin, quand, tu vois, il m'avait offert une montre, je l'avais perdue, j'ai mis genre 2 semaines à lui dire parce que j'avais tellement peur de sa réaction. Et en vrai, je me dis, mais c'est nous, en fait. Tu sais, si toi, tu t'instilles pas ça à tes enfants, genre, tu vois, mes enfants, comme je disais, je leur dis, vous êtes trop beaux, vous êtes... Mais c'est parce qu'on est leur première fan, c'est normal, tu vois, enfin, ça peut pas être autrement. Et si toi, t'es pas la première fan de tes enfants, mais qui le sera, tu vois? Et comment eux pourront être fans d'eux? Ben, non. Donc, non, moi, je suis la première fan de mes enfants. Avant mon mari, hein. La première fan, c'est moi.
Tu les as portés, en
plus. Attends. Mais
on va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ok.
C'est quoi pour toi être une maman parisienne?
Être une maman parisienne, c'est genre une maman cool, tu vois. C'est genre une maman qui sait être dans son rôle de maman, mais qui sait aussi être... j'ai pas envie de dire pote, parce que c'est pas vraiment le terme, mais genre qui peut avoir... Enfin, tu vois, qui peut partager des trucs cool avec ses enfants, tu vois. Qui sortent du cadre de juste l'éducation, ce genre de choses, tu vois. Avec mes enfants, enfin... Encore une fois, j'en reviens à mon éducation, mais c'est parce que tellement ça m'a marqué. Je fais tellement de trucs avec eux que je ne sais pas. Ben, par exemple, être une maman parisienne, c'est genre emmener sa fille pique-niquer dans un parc, tu sais, genre à 18 ans, et boire du vin. Ben, pour moi, ça, c'est être une maman parisienne, tu vois. C'est genre leur montrer tout le champ des possibles et des possibilités, en fait. Faire des trucs, voilà. Faire des trucs, tu sais, être là quand elle te dit « j'ai besoin d'aide pour mes cours de maths », et être là aussi quand elle te dit « bon, vas-y, on va se poser dans un parc et on va chiller
». Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris?
Bon, bah, est-ce que moi ça compte? Parce que, en fait, mes enfants sont grands, ce sont des adultes. Et en fait, c'est, j'ai jamais réfléchi à ce genre de truc parce que, pareil, moi, j'imposais mes enfants, hein, c'est-à-dire que, voilà, même si c'était pas un endroit pour les enfants, je venais avec mes enfants, tant pis. Bon, bah, si ça plaisait pas, je partais. Mais quel endroit kids friendly, je pourrais te dire? Je vais te dire un truc un peu con, mais je vais te dire que c'est le marché Saint-Pierre. Parce que moi, je traînais, j'ai toujours. Comme je te disais, je traînais mes enfants partout. Donc quand j'allais acheter mon tissu, eh ben, ils venaient avec moi et, au marché Saint-Pierre. Et c'était cool parce que chez Rennes, tu sais, ils ont les petits mannequins qu'ils habillent et ça change tout le temps. Et ma fille, elle était fan de ce truc. C'était sa passion, genre du coup elle traînait dans tout le magasin, regardait pendant que moi je choisissais mon tissu, et elle regardait les poupées habillées et elle kiffait trop ça. Donc je vais dire ça.
Parfait. Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Alors les projets rien que pour moi, il y en a un paquet. Bah, déjà, comme je te le disais tout à l'heure, avant j'étais fonctionnaire, mais en fait je suis encore fonctionnaire. Je suis bientôt radiée de la fonction publique, j'ai demandé ma radiation, et donc ça c'est genre un truc de fou. Moi qui aime bien la sécurité, tu sais, c'était toujours le truc, mais au moins toi t'as ça sous le coude si jamais, voilà. Mais là, ça y est, je m'en détache, et je m'en détache pour, parce que là je suis auto-entrepreneur en fait, et donc je vais monter ma vraie boîte, donc j'angoisse. Mais c'est trop bien, j'arrête pas de dire à mon mari je vais être une CEO, c'est trop bien. Et donc ça, ouais, c'est un gros projet parce que du coup, je vais regrouper toutes mes activités et officialiser vraiment le truc. Mon projet en famille, c'est que... alors, c'est pas pour tout de suite. Et c'est un truc sur lequel il faut qu'on travaille. Avec mon mari, on a dans l'optique de quitter la France et de partir s'installer au Sénégal pour ouvrir une maison d'hôte. Rose, je tiens à préciser. Oui, parce que le deal, c'est ça. Si la maison, elle n'est pas rose, je n'y vais pas. Et en vrai, ben, du coup, on va laisser les enfants. Alors ça, c'est un peu compliqué pour moi, parce que même si on envisage de le faire dans genre 3 ans, je pense que de toute façon, je ne serai jamais prête à quitter mes enfants. Mais on aimerait, dans l'idéal, enfin après c'est vraiment en fonction de comment eux, leur vie vont évoluer, mais dans l'idéal, on aimerait bien qu'ils travaillent avec nous, en tout cas de temps en temps, tu vois, parce que ben, du coup le Sénégal c'est quand même pas si loin que ça que la France, donc pour faire les allers-retours c'est assez pratique. Et en fait, ouais, notre futur projet de vie, du coup, puisque c'est un truc en commun, c'est ça. C'est de partir s'installer au Sénégal, d'ouvrir une maison d'hôte qui fasse concept store, on pourra faire du yoga, où il y aura des cours de cuisine, plein de trucs, genre on aura un jardin. Et mon mari, lui, comme son rêve, c'est de lire dans un hamac, et ben il aura toute la place pour le faire.
J'ai hâte d'y aller.
Ouais.
Merci beaucoup, Violette.
Merci à toi, ça m'a fait... Ça m'a fait du bien de discuter de la maternité. C'est un truc que j'avais jamais fait, donc c'était chouette. Merci.
Merci.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Violette, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 69 sur Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité. La vraie.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.